Pour ce qui est, ici Alexandre Nicodeau avec mon collègue André Dudomène. Cette semaine, nous avons MC Snow comme invité à l'épisode 140. Donc ici, MC, si tu pourrais t'introduire dans notre histoire.
Ben oui, merci de m'accueillir ici. Mon nom, c'est MC Snow, puis je suis un sculpteur à Ganawagi, c'est proche de Montréal. C'est la réserve Mohawk, Ganyangehaga.
Alors, MC Snow, bienvenue sur la rue Adadegan. Autrement dit, bienvenue chez vous.
Merci.
Il s'agit d'une petite appellation Mohawk qui a été donnée récemment à une rue de Montréal et qui, on s'en est inspiré pour donner le nom à ce podcast qui se veut aussi un lieu justement de fraternité, sororité, hein, puisque les deux termes dans la plupart des langues autochtones vont être un seul mot. Donc, une famille unie par ces liens forts et profonds qui unit les Premières Nations et qui est tout à fait dans la tradition Mohawk aussi, hein, où l'importance de devenir un seul esprit, hein, il y a des rituels, Et j'ai vu que tu étais très plongé dans la tradition. Est-ce que t'as grandi dans une famille traditionnaliste?
Pas vraiment, non. Ma famille était plus ou moins catholique. Puis quand j'ai déménagé, ben je suis revenue quand j'avais dans mes vingtaines, là, après la crise d'Oka. Puis je me suis vraiment immersée dans la spiritualité plus traditionnelle. Donc, je commençais à aller à la maison longue, puis mes enfants ont grandi là-dedans, puis, ouais. Et donc, ça fait une trentaine d'années.
Alors, tu pourrais peut-être nous parler de ton parcours. D'abord, est-ce que t'as été d'abord artiste et t'as eu un parcours, t'as eu une formation en art visuel. Est-ce que tu pourrais nous parler de toute cette période-là?
Ah, ben quand j'étais enfant, je savais pas mal que j'allais être artiste. C'est quelque chose que je faisais tout le temps. Quand j'étais à la petite école, je faisais beaucoup de dessins, je faisais des concours, puis des fois, je gagnais des concours même. Fait que mes parents m'ont vraiment comme été là pour moi, pour m'encourager pour aller à l'École des beaux-arts. Finalement, je suis allée à l'Université d'Ottawa dans les beaux-arts et j'ai gradué là-bas. Puis, je suis revenue à Montréal, puis j'ai fait mes premiers shows ici, mes premiers expos avec un de mes profs, un de mes anciens profs de l'Université d'Ottawa, Peter Gnass, qui est un sculpteur bien reconnu au Québec. Puis, il m'a aidé beaucoup à rencontrer des gens, puis faire mes premiers expos. Puis, c'est encore un de mes meilleurs amis.
Est-ce que 90, il semble que ça a été un moment de reconnexion pour toi? Est-ce que ça a été est-ce que c'était tout simplement une continuité ou si ça a été un saut vers l'approfondissement? Est-ce qu'il y a eu une coupure, bref, dans ton histoire autour de la crise d'Oka, puis des suites pour toi dans ton parcours?
Ben, je pense que oui, parce que quand c'est arrivé la crise d'Oka, ben, j'avais 20 ans, puis j'étais comme dans ma dernière année d'université en art, puis, ben, j'ai beaucoup de famille qui habite à Ganawagi, puis on entendait parler de ça, puis on n'était pas vraiment là, on était à Ottawa, donc on n'était pas si loin que ça, mais quand même, on pouvait pas, mais c'était la crise d'Oka, on pouvait pas revenir à la réserve pour visiter nos grands-parents, donc pendant ce temps-là aussi, quand j'étais à l'école, j'étais dans mes cours d'art, mes cours de peinture, mes cours de sculpture, puis c'est devenu vraiment comme politique faire l'art contemporain pendant que j'étais à l'école. Donc, ça m'a vraiment comme formé ma démarche d'aujourd'hui.
Oui, pour beaucoup de monde, ça a été effectivement un moment changeant. Moi, je regarde... J'ai deux couples mixtes, donc j'ai une double identité, à la fois comme Innu et comme Québécois. Et je dois dire que, comment dire, j'étais bien conscient de qui j'étais, mais c'était pas important, quoi. Quand je sortais sur la rue, je rencontrais des gens, j'étais moi-même et c'est tout. Et tout d'un coup, à la crise du avec la montée de l'agression, même un certain racisme latent qui tout d'un coup est surgi, tout d'un coup, j'étais ramené à mon autochtonité de... J'oserais dire à coup de plaque d'en face, métaphorique, heureusement. J'ai pas été frappé pour vrai. Mais tout d'un coup, le questionnement identitaire était dramatisé par la situation et ça l'a forcé, Ça l'a forcé une réflexion et ça m'a forcé à camper plus fort, je dirais, dans mon héritage autochtone.
Moi aussi, puis je pense parce que c'était l'année après ça, après la crise, que j'ai décidé de faire ma maison là. Alors, je suis revenue à Ganawagé pour habiter pour de bon. Puis c'était vraiment, le climat, il était encore, comme tu dis, un peu agressif, puis méfiant, tu sais. Puis beaucoup de choses, ça l'est encore aujourd'hui, je pense. Il n'y a pas vraiment... Ça s'améliore un peu, je pense, avec la nouvelle génération, mais il y a encore beaucoup de méfiance, je pense, entre comme ma génération puis les plus aînés que nous.
Quand tu dis que tu es revenu à Ganawagé, c'est parce que tu restais pas là? T'as vécu ailleurs avant?
Mais c'est ça, mon père, on habitait au canton de l'Est parce que ben mon père travaillait là comme chirurgien. Donc, on a beaucoup déménagé. On est allé aux États-Unis après ça. Donc, j'étais aux États-Unis pendant mon adolescence. Après ça, mes parents y ont séparé. Je suis revenue à Ottawa avec ma mère parce que ses parents, à elle, demeuraient à Gatineau. Fait qu'on était là pour 4-5 ans, pendant qu'on allait à l'école.
Mais ça a dû être quelque chose d'atterrir à Ganawagé à l'époque, parce que je me souviens, il y avait encore, en 91, si ma mémoire est bonne, il y avait encore des guérites à l'entrée où on se méfiait qu'il n'y ait pas d'agents provocateurs de la police provinciale qui viennent encore foutre le trouble à Ganawagé. Donc, ça créait un climat assez tendu. Je me souviens, au premier festival, c'était en 91, on avait, comment il s'appelait, un gars extraordinaire, il avait grimpé la Tour Eiffel à main nue, Stock, Albert Stock, voilà.
Oui, c'est vrai.
Et on allait le voir pour parce qu'on allait présenter l'émission Ushuaïa où on le voyait allègrement grimper la tour à Paris. On arrêtait à la guérite. Là, il a dit, qui c'est que vous venez voir? Vous êtes pas de Ganawagé. Oh, viens voir Albert Stock. Qui ça, Albert Stock? Là, il y en avait un qui le connaissait. Je le connais, moi, Albert Stock. Tu connais ça, toi? On sentait vraiment comment c'était... Ben, je veux dire, on en rit mais aujourd'hui, mais c'était triste de voir comment, même à l'intérieur de nos communautés, le tissu social était affecté par l'impact de l'affrontement puis tout ce qui avait surgi. Donc, ça prenait un certain culot, quoi, pour revenir à Ganawagé et dire, là, je campe là maintenant.
Ben, un culot, je sais pas, mais je suis là à cette heure, puis je pense que je me suis assez bien intégrée, puis je pense que d'être une des personnes qui savent comment parler français, ça me donne des... Ça m'aide beaucoup à communiquer plus avec les gens de l'extérieur. Alors, je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu intégrer mon art un peu plus au restant du monde. Puis, c'est ça.
Mais tu as quand même adhéré. J'imagine que c'était neuf à ce moment-là. À la Maison Longue, à tout le courant traditionnel qui est encore très vécu, très fervent dans les communautés Mohawk. Les gens soupçonnent pas à l'extérieur comment c'est quelque chose d'important pour tous ceux qui sont impliqués dans ce courant qu'on dit traditionnaliste, enfin, ce courant très, moi, je dis tout simplement traditionnel, ce courant traditionnel. Et ça a dû aussi être une très grande expérience pour toi à ce moment-là.
Mais c'est vraiment un mode de vie. C'est une façon d'être. C'est une façon de vivre avec. Comment qu'on dirait ça? c'est une façon de vivre avec, ben, sur la terre, sur notre, dans notre région. Toute notre spiritualité puis nos cérémonies, ça vient de ce qui nous entoure, le monde naturel. Puis c'est tout basé sur le respect et la collaboration entre nous autres, les humains, puis le monde naturel.
Effectivement, c'est une énorme tradition spirituelle autochtone qui est très, très, très riche et avec des rituels qui ont été magnifiquement préservés, notamment chez les Mohawks. Là, c'est vraiment magnifique de voir ça encore vivant aujourd'hui. Et ça me rappelle un peu, ça m'a tout de suite, si j'ai songé à ça, c'est en voyant le titre de ton exposition « En cours au Mekong », qu'il faut courir voir, et qui est le passé et présent. C'est bien ça le titre?
La présence du passé.
Présence du passé, merci de me corriger. Présence du passé, donc, allez voir, et ça m'a rappelé évidemment la... Je sais pas si tu y as pensé à toi, mais la fameuse citation de l'écrivain américain Faulkner, là, de « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Hein, »« The past is not dead, it's not even past. » Et de fait, c'est intéressant parce que... Alors là, j'ai plein de questions, mais déjà, tu as eu à reconnecter avec des objets de collection.
Oui, c'est vraiment intéressant. Je suis en train de faire ma résidence artistique au musée McCord Stewart. Puis j'ai eu la chance de travailler avec les curateurs autochtones, puis aussi des archéologues, puis d'être là pour voir la collection. Puis c'était vraiment intriguant parce que j'avais jamais vu ces collections-là avant. C'est rare qu'on les voit parce que d'habitude, ils sont tous dans des tiroirs. Puis j'étais là, puis j'ai eu l'opportunité de, ben, tu peux-tu ouvrir ce tiroir-là, celui-là? Qu'est-ce qu'on veut voir aujourd'hui? On veut voir des masques, on veut voir de la poterie, des éclats de poterie, des pipes, toutes sortes de choses comme ça. C'était vraiment spécial, je pense. C'était des choses que je rêvais de ça quand j'étais enfant. Puis on les voyait juste, on n'avait pas l'Internet, on les voyait comme dans des livres, puis c'était pas beaucoup. Il y avait peut-être 2-3 photos, puis c'était ça. On voyait juste ça. Puis là, j'avais la chance de voir toutes ces affaires en vrai. Alors, je me suis sentie vraiment... Ben, pour moi, c'était vraiment... J'étais vraiment impressionnée de voir tous ces objets sortis des tiroirs. Puis c'était comme ils voulaient parler. Alors, c'était comme ces objets-là, ils étaient porteurs d'une voix du passé qu'on ramenait au présent, puis pour les voir, pour les rencontrer de nouveau, pour les redécouvrir. Puis c'est comme moi, je pensais que c'est comme s'ils parlaient. C'est comme s'ils ont passé comme des centaines d'années à rien dire, à attendre qu'ils sortent puis qu'ils recommencent à avoir leur voix. Alors, pour moi, c'était important de les mettre en valeur, de les mettre en lumière avec le contraste du travail que moi je fais, mes œuvres. C'était comme le passé qui parle au présent. Puis c'est comme ça amène ce qui est important du passé puis du présent, puis ça va tout collectionner comme une collection de musée, mais ça va apporter ça au futur. Et l'importance de cette histoire qui est comme cachée, qu'il faut retrouver, qu'il faut redécouvrir encore, c'est ça qui était important pour moi, c'est comme revisiter les objets du passé pour les écouter encore, puis ben, dans un différent contexte. Parce qu'on va au musée, puis on voit des choses, des objets, des artefacts dans des collections, puis ça nous parle pas vraiment. Tu sais, on voit, c'est des objets du passé, c'est un peu extinct, mais c'est pas ça, parce que aujourd'hui, on peut revoir ces objets-là, puis d'une façon différente, dans un contexte différent, puis on voit que c'est pas des objets du passé, c'est vraiment des objets qui sont d'aujourd'hui, qui sont vraiment aussi importants qu'ils l'étaient dans le passé. C'est vraiment des objets qui ont gardé leur importance, mais c'est une importance qui a évolué avec nous. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça de nos yeux, puis voir cette évolution-là qui continue aujourd'hui, puis qui va continuer. Alors, trouver ces petits moments-là en voyant les artefacts vers à côté des objets contemporains, ça nous donne comme des petits liens de mémoire qui nous font rappeler de qu'est-ce qui est important pour nous autres, puis qu'est-ce qui va redevenir important, que peut-être qu'on a perdu quelque chose, il faut le ramener vers nous.
Je pense à ça, il me semble que ces objets-là sont encore très actuels parce que
oui.
Je pense qu'on a encore des objets de la poterie un peu à la maison. Même oui. Chose pour, mettons, les porte-bébés.
Oui, c'est la même chose. C'est pas des objets qui sont dans le passé. C'est des objets qu'on fabrique encore. Puis c'est intéressant comme étant artiste quand tu rentres. Puis si t'es une personne qui fait de la poterie contemporaine, ça va t'inspirer. Tu vois les gens de ton passé qui ont fait ces anciens poteries-là, puis c'est, il y a vrai, ça fait comme une connexion, ça nous donne une connexion, c'est notre histoire d'art à nous autres, notre histoire, c'est presque comme des choses qui peut-être devraient pas être en collection, peut-être c'est, ben là, il y a un peu de différence, il y a les objets en collection, mais quand même, ça parle vraiment de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les arts contemporains autochtones.
Je me souviens dans un film qu'on avait présenté au festival, il y avait des Kanaks qui visitaient le musée Quai de Branly à Paris, puis ils voyaient des masques anciens de leur nation. Et ils disaient, les masques s'ennuient au musée.
Oui. Ouais, oui, c'est ça. On a des objets oui. cérémoniaux. Il y en a beaucoup d'objets cérémoniaux qui ont été repatriés par les communautés autochtones. C'est des connexions qu'on continue à faire avec les musées, avec les gens qui ont les collections pour, pas pour tout repatrier, mais seulement les objets qui sont encore usagés, qui sont encore ils travaillent encore, ils font encore une job spécifique pour le peuple. Alors, c'est important qu'ils soient comme à la maison ou dans la maison longue pour continuer le travail qu'ils font. Et c'est ça pourquoi on fait beaucoup de travail sur l'amélioration la coopération entre les musées puis les peuples autochtones de la région. Alors, c'est vraiment une bonne chose. Ça commence à s'améliorer beaucoup.
D'ailleurs, on peut saluer, c'est vraiment une initiative. Maintenant, comme ça fait plusieurs fois que ça s'est fait, on a tendance à s'habituer, puis à voir comment il y a une nouveauté, puis un pas en avant, cette idée dans un musée d'histoire, un musée d'archéologie, d'avoir des artistes en résidence contemporains qui, justement, viennent en interaction avec les collections du musée. Je me suis demandé, en t'écoutant, s'il n'y a pas, dans le fond, une sorte de cérémonial de réappropriation dans ce dialogue artistique entre l'art contemporain et les objets qui, autrement, ne seraient que des objets de musée.
Absolument. Je pense que, parce qu'il commence à avoir plus de travail collaboratif entre les peuples autochtones, puis les musées, puis les conservateurs de collections, c'est vraiment... Comment qu'on pourrait dire, c'est encourageant de voir les connexions qui sont après se faire, l'encouragement qu'on a des musées, puis l'encouragement qu'on a avec l'autre pour avoir plus de communication ouverte, de faire les cérémonies qui devraient être faites au musée quand ces objets cérémoniaux se présentent, d'avoir tous les protocoles en place quand ces objets cérémoniaux-là vont faire leur trajet pour être réintégrer dans leur la place d'où elles viennent, leur place originale. Et je pense que en travaillant ensemble, avoir plus de personnes autochtones en travaillant avec les musées et les dans les collections, que ça amène un regard différent aux objets. Puis c'est un regard bénéficiel.
Alors, tu as eu évidemment à travailler de très près avec Jonathan Lainé, qui oui. Qu'on connaît ici. D'ailleurs, on l'a eu à ce même podcast pour nous parler des wampum, hein, qui est vraiment sa spécialité, et de magnifique, l'extraordinaire exposition que le Maker a fait autour des 10 wampum. Mais là, je me disais, oh là, un Mohawk travaille avec un Wendat, puis il y a quand même là des visions historiques différentes d'une nation à l'autre. Est-ce que vous vous êtes astiné un peu des fois?
Non, pas du tout. Parce que c'est tellement dans le passé que c'est différent aujourd'hui. Il y a plus un esprit de collaboration, de travailler ensemble, puis de le monde est devenu tellement petit. Ça vaut pas la peine de chicaner.
Ouais, puis chaque fois qu'on chicane, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est content de ça, là, puis oui. On en parle souvent, là. À chaque fois qu'on chicane entre nous, il y a quelque chose qui est ralenti. La décolonisation est ralentie.
Oui.
Ben, d'ailleurs, effectivement, c'est bien comme ça que l'Amérique a été conquise en nous divisant. Par contre, là, je vais encore tourner le fer dans les mêmes plaies, mais je me souviens, d'ailleurs, ben, c'est justement Jonathan Lainé, dans un colloque, il y avait un archéologue, c'est connu, qui l'avait un peu interpellé à propos des marques sur les poteries. Alors, d'où la notion que des Iroquois du Saint-Laurent, hein, tu vois déjà, il y en a un qui commence à voir que ça chauffe, là, que les Iroquois, que en fait, c'est un barbarisme incroyable, Iroquois du Saint-Laurent. Ça, c'est parce que Jacques Cartier n'a même pas eu la tête de demander aux gens qu'il rencontrait comment eux autres s'appelaient eux-mêmes. Comme si on aurait un nom à leur donner. Mais là, ça on dit Iroquois du Saint-Laurent. Et là, les archéologues disent c'est ni des Hurons, ni des Mohawks. Les Mohawks disent c'était des Mohawks, puis les Hurons disent c'était des Hurons. Et tout ça à partir des marques sur lesquelles tu as travaillé. J'ai vu dans ton travail comment ces inscriptions dans les poteries t'ont inspiré. Alors, tu étais quand même dans une matière, là, aujourd'hui conflictuelle.
Ben, oui. Moi, je penserais d'une autre manière, c'est qu'on c'était aussi nos cousins, puis on n'était pas toujours ennemis. On était comme... Il y en avait beaucoup d'entre nous qui étaient famille, mais puis on habitait ensemble aussi, on était proches, mais c'était une affaire politique, culturelle, qui causait des divisions. Même chose qu'aujourd'hui, mais plus aujourd'hui. Je pense qu'on est devenu beaucoup plus... On s'entraide assez souvent. Puis, on est là quand il y a des injustices dans une de nos communautés. Puis, je pense qu'il y a plus de comme solidarité entre nos peuples, spécialement depuis la crise d'Oka.
Ouais, puis, tu sais, on en parle souvent, mais il me semble qu'on on parle moins de pourquoi il y a eu ces chicanes-là entre les Hurons et les Mohawks là, à cette époque-là. Mais tu sais, André, tu le ramènes souvent, mais c'est ça, on dirait, pourquoi il y a autant cette chicane-là? Pourquoi il y aurait eu une animosité entre deux nations iroquoiennes?
Ouais, mais ça, je peux répondre, puisque c'est à moi que tu poses la question. Non, moi, je pense aussi, effectivement, je suis sur tout à fait la même longueur d'onde que MC là-dessus. C'est une même grande famille linguistique, culturelle. Et oui, il y avait à l'époque des guerres, mais qui étaient des guerres de jeunes machos, hein, qui se rencontraient, qui se battaient. Et quand les armes à feu sont arrivées, et quand les colons sont arrivés avec une volonté de contrôler des territoires, des routes de commerce, ce qui était un peu des tournois de chevaliers, j'oserais dire, très cruels. On va pas se le cacher. Là. C'était pas des joutes gentilles. Les gens se tuaient et s'étripaient. Mais en même temps, avait des grands rituels pour refaire la paix après entre les communautés. Et ça faisait partie de la tradition. Mais là, tout d'un coup, c'est devenu des guerres globales avec l'arrivée des armes à feu et des guerres d'extermination. Alors là, c'est vraiment, ça a été exacerbé par les nouvelles règles qui ont été amenées par les nouveaux arrivants. Mais c'était pas au départ, ça restait, comment dire, des événements passagers. Voilà, guerriers passagers. Et d'ailleurs, d'où l'idée, d'où ces grands rituels puis ces grands discours sur paix et réconciliation qui sont de partie intégrante des traditions iroquoises, justement. D'ailleurs, tu peux nous en parler puisque ça t'inspire beaucoup, je suis sûr, MC.
Je connais pas grand-chose là-dedans, André. C'est dommage, mais ce qu'on n'a pas appris, nous autres, quand on était des étudiants à Québec, c'était notre histoire. C'était comme caché ou ça existait pas ou je sais pas. C'était pas là. Alors, même que d'entendre ces histoires-là, c'était pas des histoires, beaucoup d'histoires positives. Il y avait beaucoup de négatifs. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Il faut que ça soit dans nos livres d'histoire. Sinon, on va jamais apprendre. On va jamais savoir notre histoire. Moi, j'aurais bénéficié d'entendre les histoires que tu connais parce que moi, on n'a jamais entendu ça quand on était petits, nous autres. on le savait pas.
D'ailleurs, moi non plus. J'ai appris ça sur le tard quand je m'y suis intéressé parce que effectivement, c'était pas mal plus sommaire que ça, ce qu'on apprenait à l'école. Puis moi, même dans ma génération, où là, attention, ce qu'on apprenait à l'école, c'était pas une chance que j'avais ma mère à la maison qui me disait, faut pas que tu crois tout ce qu'on te raconte parce que sinon j'aurais eu honte de mes origines. Mais voilà. Donc, il y a quand même eu un chemin important de fait. Et parlant de chemin, d'ailleurs, tu as aussi participé à un chemin, à un parcours entre le fleuve et la montagne. Là, on est vraiment dans collaboration avec la ville de Montréal, qui elle aussi s'est beaucoup commis sur l'idée de réconciliation avec les peuples autochtones. Et notamment ouais. Avec un grand projet d'art public auquel t'as participé. J'aimerais que tu nous en parles. Comment t'as été impliqué dans tout ça et l'importance que ça l'a eu pour toi et quelle forme ça l'a pris dans sa réalisation?
Mais le projet s'appelle Nos voix, nos récits, nos voix. Puis c'est basé sur le Ohandu Gariwadekwa. C'est notre prière, les mots qu'on fait avant tous. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose d'important, c'est une récitation qu'on fait. C'est une récitation qui donne un remerciement à toute la création. Et c'est pour devenir comme on se joigne les esprits ensemble avant de faire n'importe quoi. Alors, nos récits, notre voix, c'est un parcours de fauteuils urbains. Ça a commencé, c'était des fauteuils urbains, mais c'est devenu comme des sculptures, c'est des sphères en bronze. Ah tiens, il y en a une photo là. C'est des sphères en bronze, puis on peut s'asseoir dessus. En fait, c'est moi puis l'artiste Kira Rebenko qui est à l'Octone de Montréal. On a comme chaque fait un sphère comme ça, puis sont posés face à face, puis on a comme le sphère à l'Octone, puis on a le sphère autochtone, puis on a fait l'imagerie dessus. Ça a rapport à la prière de notre l'action de grâce de les mots avant tout. Alors, ça commence proche de l'eau, puis avec avec ce dialogue-là de se faire. Et ça continue à chaque deux blocs. Il y a comme un autre groupement de se faire où on peut faire dialogue dessus. Les dialogues sont comme impliqués sur les dessins sur le sphère. Il y en a qui ont rapport à la nature, bien sûr, à nos semences, à nos jardins, la façon qu'on faisait de l'agriculture. Puis aussi, c'est comme face à face à l'autre sphère qui parle plus de le côté allochtone, le côté des nouveaux venants, puis leur méthode à eux autres de faire l'agriculture ou le commerce, ou on en a d'autres, ça parle de notre histoire orale vers comme poser face à face l'histoire comme écrite des nouveaux venants. On a des sphères qui sont en dialogue à rapport de la spiritualité, puis aussi de les missionnaires qui venaient à Montréal. C'est comme ça, tout ça, jusqu'en haut de la montagne, dans le parc, sur la montagne. Et ça force pas, mais ça invite aux gens de venir s'asseoir comme face à face pour dialoguer de ces choses-là, de faire un dialogue comme amical, ou juste de penser à ces choses-là.
Ça, ici, dans la photo, là, ça, c'est-tu des œuvres? On a deux points ici, c'est-tu des points qui sont comme sont supposés être prévus?
J'ai comme la misère à voir la photo, mais...
Attends.
Ah, OK, ça, c'est une des pancartes. OK, oui, ça serait la liste de toutes les œuvres. Alors, ça serait comme la rue Peel.
Mm-hmm. Puis Canal de la Chine, la rue Peel.
Oui, ça, c'est tout.
Ben, on peut les voir maintenant, hein. Il faut aller sur la rue Peel, puis...
installer. On n'a pas encore fait la grande, le opening pour ça, mais ça va être fait comme... En juin, je pense.
Station à venir, station installée. OK, c'est bon.
Puis il va avoir un balado avec ça, avec des histoires.
Il y en a combien de sphères en tout?
Il y a 21 sphères.
Ouais. Ça devrait être 21, c'est curieux, parce que ça devrait être 22, ça devrait être un nombre pair, non?
Ça devrait, mais à un moment donné, il y en a un, je me rappelle plus exactement sur quel coin de rue qui est, mais moi et Kira, on a travaillé sur un des sphères ensemble. Alors, on a travaillé pour comme 4 semaines à travailler en même temps sur le même sphère. Alors, ça nous a comme donné un feeling collaboratif.
Et je suis curieux, le bronze, vous l'avez fait faire à Inverness, je présume?
Oui, c'est ça.
Exactement. Et vous êtes parti vous avez travaillé en quel matériau avant de faire les moules puis aller en bronze?
On avait travaillé en plastiline. Puis après ça, ils font les moules d'après ça, puis le bronze.
Ouais, nous aussi, on connaît Inverness parce qu'on a une... Ça, je l'ai ici. Aïe, c'est lourd. Alors, c'est une statuette qu'on remet en cinéma aux gagnants, aux grands gagnants. On l'a fait couler en bronze. C'est une sculpture inuite d'origine en pierre à savon. Mais c'est fantastique d'avoir cette fonderie ici au Québec, là, où on peut effectivement avoir ces pièces extraordinaires. Et puis ça, c'est massif, là. Ça doit peser lourd.
Oh, pas mal lourd, oui.
Ben ça, c'est ton œuvre, j'imagine. Il semble que je connais un peu le barrage de castor puis la frais, un poisson avec des œufs.
Oui, ça va. Ça serait la sphère, ça a rapport à la vie marine, la vie des eaux. Ça parle des castors, des poissons, des esturgeons, puis la vie sous l'eau.
Est-ce qu'il y a une des sphères qui t'a inspiré plus que d'autres, dont tu te sens plus proche comme artiste?
Je pense que la sphère que j'ai travaillée avec Kira Revenko, c'est la sphère la plus importante pour moi parce que ça parle d'être capable de travailler ensemble. Puis la connexion qu'on avait après avoir travaillé ensemble. Puis la connexion qui continue entre nous deux après le projet. C'était un projet long, c'était un projet de 8 ans quand même. On a pris beaucoup de temps ensemble. On a travaillé beaucoup, bien, avec beaucoup d'équipes dans la ville de Montréal. Puis, c'est dommage que on vient vers la fin de ça.
Mais c'est quand même... Comment tu as été impliqué là-dedans? Est-ce qu'il y avait un concours que tu as appliqué ou que tu as contacté? Je suis curieux de voir comment...
La Ville de Montréal était à la recherche d'un artiste autochtone, puis ils ont décidé de travailler avec la communauté de Ganawagé parce que c'était le plus proche. Ils ont été capables de travailler avec le conseil de bande de Ganawagé pour trouver des artistes locaux. Donc, moi, j'étais sur une liste pas très grande d'artistes à Ganawagé. Puis, j'ai été vraiment chanceux de pouvoir prendre cette position pour travailler avec la Ville de Montréal.
Et comment vous avez délimité les thèmes des sphères? Je sais qu'il y a eu des fouilles archéologiques, il y a des anciens sites iroquois qui ont été identifiés dans le secteur.
Oui.
Mais alors, comment vous avez... Bon, celle-là est marine, un autre, j'imagine, elle va être plus botanique. Mais comment vous avez décidé, là, à tel coin de rue, voici le thème, puis l'imaginaire visuel qu'on va mettre en œuvre?
Bien, ça suit le parcours de la prière de l'action de grâce iroquoienne, Mohawk, Ganyangéha. Puis, ça commence avec, on parle de l'eau, ça donne remerciement aux eaux, ça donne remerciement à la terre, aux plantes, à la médecine. Puis ensuite, ça commence à monter comme ça, au ciel, aux oiseaux, aux étoiles, au soleil, à la lune, puis ensuite, à la fin, au créateur. Alors, ça monte comme ça, puis à chaque coin de rue, on a mis des sphères. C'est comme par exemple sur le coin de rue où est situé le astre. Voyons. C'est le astro.
Pas le cosmodôme, là, mais le. Oui, oui.
Comment ça s'appelle?
En tout cas,
j'ai perdu le mot.
Planétarium?
C'est ça, c'est
oui, ça. Mais l'ancien planétarium.
Planétarium. Bon, c'est ça, c'est là où on a fait les sphères du ciel, de l'espace et des planètes et des constellations. Alors, ça a tout rapport à quelque chose de l'histoire de la connexion entre ça puis les actions de grâce.
Oui, puis la connexion avec l'histoire de Montréal, puisqu'un planétarium... qui est aussi une connexion entre la Terre et le ciel, mais bien, bien située géographiquement au coin d'une rue à Montréal, au coin de deux rues à Montréal. Ouais.
C'est ça, exactement.
Et donc, le projet est terminé. Là. Les 21 sphères sont là. On attend l'inauguration qui devrait être en juin prochain, tu penses?
Oui, ça devrait être en juin. On n'a pas encore une date exacte, mais... Oui, ça va être bientôt.
Quelque chose me dit que ça va peut-être le 21.
Oui, ça se peut.
Oui, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sinon aussi.
Oui, ouais, quoique maintenant, c'est tout le mois de juin qui est considéré comme le mois de l'histoire autochtone. Donc,
oui.
Parfois, on essaie de pas toujours tout concentrer le 21 juin. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse et plugger une activité qu'on est en train de préparer. On aura une activité sur les littératures autochtones, une activité ludique participative à la Grande Bibliothèque le 17 juin. Si vous voulez en être au Makoucham littéraire, il faut s'inscrire maintenant. Il y a un lien si vous allez sur le Facebook de la Grande Bibliothèque. Donc, et parce que le nombre de participants est limité. Et ça me fait partie des Grands Lundis culturels, une initiative donc de Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui gère la Grande Bibliothèque. Et là, ben, ils ont des collaborations avec différents organismes. Il y a eu l'Opéra de Montréal, il va y avoir bientôt les Grands Ballets canadiens, enfin, puis d'autres. Et Terres en vue pour une activité autochtone qu'on a centrée sur la littérature et la poésie, puisqu'on est au sein d'une bibliothèque, mais là aussi, on s'inspire d'un rituel ancien, le Makoucham, pour y inclure une expression très actuelle, parce qu'on sait qu'il y a tout un boom éditorial, hein, avec tous les livres maintenant qui sont publiés au Québec, avec les éditions Nénorak, Mémoire d'encrier, des poètes extraordinaires comme Joséphine Bacon. Alors donc, c'est tout ça qui sera à l'honneur et célébré le 17 juin dans le cadre des activités de juin. Et qui sait, le lendemain, on ira inaugurer le sentier de l'Action de grâce qui lit, c'est magnifique, hein, qui lit tout le parcours depuis le fleuve jusqu'à la montagne. Sans doute un parcours que les Autochtones à l'époque, dont ils étaient familiers. Mm-hmm. Ça a dû être quand même, là, quand les blocs se posaient, ça devait être quand même des moments assez émouvants.
Hein? Ah oui, puis on a pris beaucoup de photos, puis on était là à chaque fois qu'on les faisait poser, puis ouais, c'était spécial.
Est-ce qu'ils étaient faits, ils étaient posés au fur et à mesure de leur fabrication, ou si à un moment donné, ça a été fait tout d'un coup?
Ah non, ça a été fait au fur et à mesure. Il y avait tellement de sortes de choses, oui.
Et tout ça s'est échelonné sur les 7 ou 8 dernières années.
Oui.
Eh bien, bravo! C'est un... Il y a là tout un engagement très, très sérieux quand on construit quelque chose d'aussi monumental, mais aussi qui demande tout ce temps. C'est, dans une vie d'artiste, c'est quand même un bel accomplissement et ça nous fait tous honneur. Alors, on est très, très fiers que tu sois là aujourd'hui pour nous en parler.
Ben et, oui.
Puis, et puis, alors, revenons au Mécorps, puisque c'est là, on peut aller voir. Toi, comment tu as travaillé c'est quoi les œuvres contemporaines que tu as faites et comment tu les as reliées aux objets anciens? Je serais curieux de voir la démarche qui t'a inspiré dans l'exposition qu'on peut voir maintenant.
Mm-hmm. Ben, c'est ça. Je voulais trouver des objets des collections qui, pour moi, avaient une vraie voix porteuse de mémoire, de culture, de coutume. Donc, c'est des objets qui portent, comme littéralement, c'est des pots qu'on peut mettre quelque chose dedans, qu'on peut mettre des idées, qu'on peut mettre, puis des paniers, des porte-bébés, bien sûr, avec des porte-bébés, c'est les enfants qu'on porte dedans, c'est les enfants dans lesquels on met nos idées, qui vont transporter nos idées dans le futur. Donc, il y a ça, il y a les poteries, les morceaux, les éclats de poterie, parce que c'était pas seulement les poteries comme pas cassées, c'était aussi les poteries cassées avec des trous puis des craques qui étaient importants pour moi de montrer que c'était les parties qui sont pas là qui sont importantes. Donc, j'ai montré comme les éclats de poterie à côté des poteries cassées pour qu'on puisse, qu'il y ait comme un dialogue là. Puis, avec la partie que moi j'ai construit en époxy, c'est comme un grand pot qui est là-dessus, c'est projeter des images du fleuve Saint-Laurent, avec aussi une superimposé avec d'autres images puis de vidéos de les constellations, les étoiles, puis comment les constellations comme tourne autour de la Terre, puis l'œuvre elle-même est en rotation. Et l'objet, c'est de dire la connexion entre nous, entre la Terre, entre nos idées, entre toute notre culture, puis notre peuple, c'est comme mêlé avec le calendrier naturel, le calendrier des constellations qui nous guident.
Ça voilà, fait
sens, ça?
Mais oui, non, c'est même intéressant. Parce
que vraiment, là, c'est de l'art visuel, c'est pas de l'art parlé.
Non, mais t'en parles très bien. On imagine très bien, justement, partir de fragments de poterie pour bien dire qu'on est... Hein, c'est Hubert Reeve qui disait que nous sommes des poussières d'étoiles. Alors, il y a vraiment à partir de ce qui est brisé pour reconstituer une constellation puis un lien entre l'activité humaine et l'unité de l'univers, qui est tout à fait la vision cosmologique autochtone. C'est ça fait parfaitement sens. Il n'y a pas de
et... sens quand on voit les œuvres puis voit la connexion entre les objets de la collection puis les nouvelles œuvres.
Voilà. Alors donc oui, merci là, tu nous permets de dire à ceux qui nous écoutent, courez au musée McCord. Et en plus, si vous êtes membre d'une ou d'autre des Premières Nations, si vous êtes Inuit, vous pouvez entrer gratis pour aller voir l'exposition parce que c'est un service que le McCord veut rendre à nos communautés. Alors, je pense que c'est un devoir qu'on doit se faire d'aller justement saisir toute la profondeur de l'œuvre en y étant confronté, en y étant nous-mêmes exposés à l'œuvre directement. C'est la seule façon de le vivre, mais je pense que tu nous en as donné une belle introduction et ça va faire que, un, il y a plus de gens qui vont y aller, on l'espère, et deux, qui vont mieux être préparés à recevoir toute la richesse de signification puis de connexion que représente ce travail magnifique. Voilà. Et merci au McCord, encore une fois, d'être aussi attentif à la parole et à l'expression des communautés. T'as-tu un autre projet maintenant, là? Maintenant que tout ça est fait, là, enfin, ça va prendre quelque chose d'ambitieux, là.
Maintenant, je suis après travailler sur l'installation d'un mural au bureau du CN.
Ah oui.
Alors c'est un gros mural qui a de l'île de la Tortue.
OK. Et ce sera à l'intérieur ou à l'extérieur?
À l'intérieur,
OK. Et c'est quoi les dimensions?
C'est à peu près 8 pieds par 19 pieds.
Ah, oh, quand même. Wow. Oh.
On peut appeler ça un monumental?
Peut-être.
Je pense, oui. Bon, ben écoute, j'ai une cousine qui travaille au CN, je vais m'organiser pour aller voir.
Oh oui, c'est qui?
elle donne des cours de français à la patronne, à la grande patronne.
Ah, oh, wow, OK.
Alors, donc, c'est une connexion pas mal dans le ciel, là, dans le en haut de la constellation. Bon, ben écoute, MC, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour compléter cette rencontre?
Ah, ben je veux juste dire merci à vous deux de m'avoir invité ici aujourd'hui. Puis j'ai vraiment du plaisir à expliquer mon œuvre. Puis je suis bien content.
Mais nous aussi, on est bien contents de t'avoir tordu un bras pour te faire parler. Mais finalement, on a eu
merci aussi. Merci d'avoir de la patience.
Ben, écoute, non, on a eu de l'impatience, mais on a bien fait, parce que ça a été vraiment un très beau moment, puis on est content maintenant, ça va être sur Internet, et c'est encore une fois un autre moment historique sur la rue d'Adéguen, avec des artistes, des leaders culturels, des créateurs des Premières Nations, et nous aussi, on pose pas des bronzes au coin des rues, mais des paroles et des pensées à chacun des coins de l'Internet. Et ça constitue un parcours drôlement intéressant sur l'expression de qui nous sommes aujourd'hui. Et merci d'y avoir participé. Ça fait maudit beau bronze.
Merci beaucoup. Ah, merci.
Merci.
Alors, la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Matsashik, Skina. Bye.
Voilà.